17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale, ce numéro des grands témoins. Grands témoins aujourd'hui qui accueille Pierre Audin. Merci Bonjour. D'être là. Et Hakim Haddad. Merci Hakim d'être là.
Merci de l'invitation. Bonjour.
Et un honneur que de vous recevoir. Pierre Audin, vous êtes le fils de Josette et Maurice Audin. Maurice Audin, dont on va parler dans un instant, dont Alger porte une place au nom de Maurice Audin, que tout le monde connaît en plein centre-ville. Vous êtes mathématicien et vous êtes aujourd'hui, surtout, c'est le but de cette émission, membre du comité international de soutien à Khaled Drareni, Khaled que nous connaissons très très bien à la radio, puisqu'il a été notre correspondant, il a travaillé pour nous informer sur la réalité, en tout cas de la nouvelle révolution qui se mettait en marche, le Hirak, et vous nous raconterez un petit peu qu'est-ce que ce comité international et quelle est la situation de Khaled Drareni aujourd'hui, qui est en prison et qui doit bientôt repasser en procès, et vous nous raconterez un peu ça. Et Hakim Haddad, vous êtes militant politique algérien de très très longue date. Ça fait maintenant des décennies qu'on vous connaît, que vous êtes pratiquement un habitué de la maison, et on vous reçoit toujours avec beaucoup de plaisir.
Merci.
Vous êtes membre fondateur du rassemblement Action Jeunesse, ce mouvement de jeunes qui essaye en tout cas de construire cette nouvelle Algérie que tout le monde appelle de ses voeux. Et vous êtes aussi, vous aussi, membre du comité de soutien à Khaled Drareni. Alors, tout de suite, Pierre Audin, c'est un plaisir et un honneur que de vous recevoir. On peut peut-être parler, avant de commencer à parler de Khaled et du comité de soutien, autour de votre papa, Maurice Audin, qui a disparu pendant la guerre d'Algérie, et aujourd'hui qui est mathématicien, un jeune mathématicien, et qui était soutenait bien sûr la révolution algérienne, et qui a disparu, et dont le président Emmanuel Macron a demandé l'ouverture des archives, et ça a été vraiment un coup de tonnerre à la fois de part et d'autre de la Méditerranée. Et aujourd'hui, je voudrais que peut-être que vous nous disiez où en est un petit peu cette procédure d'ouverture des archives, et peut-être vis-à-vis de Maurice Audin, où en est disons la situation. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Est-ce qu'on sait où il a été emmené? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui autour de la disparition de Maurice Audin?
D'abord, la première chose, c'est qu'on sait qu'il ne soutenait pas, mais il participait à la lutte pour l'indépendance. Pour lui, c'était son pays, et il tenait absolument à participer à cette lutte, à sa façon. C'était un mathématicien, c'était un jeune mathématicien, donc c'était un intellectuel, et il militait au sein du Parti communiste algérien pour l'indépendance de l'Algérie. La déclaration du président de la République, le 13 septembre 2018, c'est une déclaration qui contient beaucoup de choses que assez peu de gens ont lu en fait en détail, mais en fait ça contient beaucoup de choses. À propos de Maurice Audin, effectivement, il dit qu'il ne sait pas s'il a été assassiné ou exécuté, ce qui fait une petite différence quand même. Il sait qu'il a été torturé et qu'il ne s'est pas évadé, mais qu'il a été torturé. Mais il ne sait pas, il ne peut pas dire vraiment les choses parce qu'il y a une omerta de l'armée au sujet de Maurice Audin. Mais ceci étant, il ne parle pas que de Maurice Audin, il parle de l'ensemble des disparus de la guerre d'Algérie, en particulier du côté algérien. Les milliers de disparus pendant ce qui s'est appelé la bataille d'Alger, ce qui est quand même pas vraiment une bataille, puisqu'une bataille, normalement, c'est entre deux armées, et là, c'était entre une armée et un peuple. Donc, on peut pas vraiment dire que ce soit une bataille. Mais disons que pendant cette période-là, il y a eu des milliers de disparus, et il demande, pour toute la guerre d'Algérie, pour les disparus, pour les victimes civiles et militaires, algériennes et françaises, il demande l'ouverture des archives, une dérogation générale d'ouverture des archives. Et curieusement, ça c'était il y a plus de deux ans, c'était le 13 septembre 2018, curieusement, il y a une espèce d'officine qui travaille au sein du cabinet du Premier ministre qui se permet de décider que il y a des règles, donc il y a une instruction générale interministérielle qui s'appelle l'IGI 1300 qui décide, sans tenir compte de la loi à propos des archives, que certains documents vont rester secrets, vont être cachés aux chercheurs, aux historiens, aux citoyens qui voudraient les consulter. Il y a un délai de 50 ans, ben le délai de 50 ans, c'est pas grave. Il suffit qu'il y ait un tampon dessus qui dise que c'est secret pour qu'on ne puisse pas le consulter tant que l'administration qui l'a émis n'ait pas mis dessus un tampon déclassifié. Donc la loi n'est pas respectée. Il y a une règle administrative imposée par le SGDSN, le Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale, qui décide, peu importe la loi, qui décide ses propres règles et qui décide que des documents ne sont pas consultables. Dans les documents qui ne sont pas consultables, il y a des choses assez ubuesques, du genre, par exemple... il faut remonter à avant 1934 pour avoir le droit de consulter. À partir de 1934, il faut mettre un tampon déclassifié. Donc, par exemple, les menus du maréchal Pétain quand il était à la tête de la France, ces menus sont classés secret défense. On n'a pas le droit de savoir ce que mangeait le maréchal Pétain. C'est quand même assez extraordinaire, quoi. Donc, voilà, il y a beaucoup de documents qui, en fait, ont déjà été consultés par des historiens. Si un thésard veut aller les consulter, ben il peut pas parce qu'il n'y a pas un tampon déclassifié dessus. Et un thésard, il n'a pas toute la vie devant lui pour faire son travail et pour attendre qu'une administration veuille bien mettre un tampon sur un autre tampon. Et donc, il y a des tas de jeunes qui sont bloqués dans leur travail à propos de l'étude en particulier la guerre d'Algérie, quoi, disons.
C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on retrouve ces éléments-là lors de la conférence de presse toute récente des conseillers de l'Élysée, lorsqu'ils ont publié et mis à jour le rapport Stora, Benjamin Stora, sur la réconciliation, etc. Et donc, il y avait à la fois les archives, et bien sûr, beaucoup de questions ont été posées sur les archives, il y avait les archives qu'on pouvait consulter, etc. Puis, dès qu'on abordait un petit peu un certain nombre de choses, il y avait le responsable de l'état-major qui était là, dans cette conférence de presse, et qui disait ça... c'est de l'ordre du juge, du pénal, etc. Enfin, il y avait un petit peu des... On y mettait un petit peu autre chose, et on sentait effectivement dans cette conférence exactement ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a des documents consultables, d'autres qui ne sont pas tout à fait de façon inégalée, et que même si le délai de 50 ans est passé, ça reste toujours couvert.
Tout à fait. Ce qui est nouveau, c'est qu'il va y avoir une nouvelle instruction, enfin, il y a une nouvelle instruction générale interministérielle 1300 qui va entrer en action, qui va être appliquée à partir du 1er juillet de cette année. Ça, c'est une décision du 13 novembre dernier, mais elle sera en fonction à partir du 1er juillet qui va venir. Et maintenant, on va en plus pouvoir mettre maintenant sur un document un tampon secret et décider maintenant qu'un document est secret et qu'on ne peut donc pas le consulter.
Avant 50 ans.
Dans 50 ans, peut-être on pourra, à condition qu'il y ait un nouveau tampon qui soit mis dessus. Mais c'est quelque chose qui peut être décidé maintenant. À propos de quelque chose qui s'est fait pendant la guerre d'Algérie, par exemple, ben, on peut décider maintenant que tel document n'est pas consultable. On met un tampon dessus et il est plus consultable.
Alors, est-ce que... bien sûr, il y a l'histoire, il y a les archives, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Il y a aussi la famille, de façon générale. La famille, de façon intime, fait sa propre enquête et tout. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur sa disparition? Vous avez des réseaux en Algérie, etc. Est-ce que vous avez, bien sûr, au-delà de l'intime conviction, est-ce que vous avez... des éléments qui pourraient, aujourd'hui, d'informations supplémentaires.
Dans la déclaration du président de la République, il y avait un appel au témoignage. Un appel au témoignage et aux archives privées, qui sont en général pas privées d'ailleurs, puisque en général, des militaires, par exemple, ont pu garder des pièces qui, normalement, auraient dû aller aux archives nationales, parce que c'était dans le cadre de leur fonction, et qu'ils ont en fait gardées, et qui sont peut-être dans un grenier, dans une valise. Donc il y a un certain nombre de choses qui pourraient éventuellement être trouvées, par exemple dans les archives du général Massu, par exemple dans les archives du général Ossarès, des choses comme ça. Il n'est pas invraisemblable qu'on puisse trouver des choses qui concernent effectivement ce qu'ils ont fait et qu'ils ont conservé au lieu de le transmettre aux archives nationales. Donc il serait pas mal que le président de la République soit écouté à ce niveau-là et qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient
livrées. Vous avez pas de...
Nous, au niveau familial, on n'a pas plus d'éléments que ça, on n'a pas plus de résultats que ça, mais c'est clair que pour Maurice Audin, les militaires ont fait ce qu'il fallait pour brouiller les pistes depuis le début, y compris avec cette farce de l'évasion qui a été jouée par des militaires, ce qui était relativement rare, disons. En général, ils annonçaient une évasion, ils se prenaient pas la tête pour faire une mise en scène, pour jouer l'évasion, pour attendre qu'il y ait un civil qui soit à côté d'eux pour pouvoir jouer l'évasion et avoir un témoin civil. En général, ils s'en fichaient. Ils déclaraient qu'il y a une évasion, point barre. Donc c'était pas un problème. Mais disons que sur Maurice Audin, il y a eu beaucoup de vide qui a été fait, disons. Mais ils n'ont pas fait ça sur tous les Algériens qui ont disparu d'une façon ou d'une autre. Et donc il y a certainement des tas de choses qu'on peut trouver dans les archives à condition qu'on puisse les consulter. C'est-à-dire à condition que d'une part tout aille aux archives nationales et ensuite qu'on puisse les consulter. Là, à l'heure actuelle, au niveau du rapport SOA, la question c'est de savoir est-ce que les archives appartiennent à la France ou à l'Algérie. Bon, ça, je trouve que c'est un débat qui est, surtout dans la mesure où tout est quasiment numérisé, et ce qui n'est pas numérisé est en cours de numérisation. C'est-à-dire, n'importe qui peut en disposer à partir du moment où c'est numérisé. Donc, savoir où est-ce que c'est stocké, ça a une importance relativement faible, je trouve, personnellement.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, de nouveau avec Pierre Audin, membre du comité international de soutien à Khaled Rahimi, et Hakim Haddad, militant algérien, membre fondateur du RAJ et membre de ce même comité de soutien et appelant la libération de Khaled Rahimi. Hakim, Khaled Rahimi est en prison maintenant depuis combien de temps ?
11 mois, si je ne m'abuse. Je crois bientôt 11 mois.
Qu'est-ce qu'on lui reproche à bientôt. Khaled ?
Alors, ce qui, en fait, le reproche officiel, enfin tout du moins, d'abord, je voudrais dire ici l'émotion que j'ai vraiment et le privilège de partager avec vous cette émission et surtout auprès de Monsieur Audin, Pierre Audin, vraiment, véritablement, je le précise, je tiens à le dire, et au-delà de Pierre et Josette Audin, c'est vraiment ce que fait et ce que fait depuis bien longtemps Monsieur Pierre Audin pour la démocratie, pour la liberté et pour la libération des détenus en Algérie, bien évidemment. Ce qui est reproché en fait à véritablement à Khaled Rahimi, c'est d'avoir fait son travail, tout simplement. Et puisque Khaled Rahimi est connu pour faire son travail de manière très professionnelle, déontologique, éthique. Et qu'il est en plus sur le terrain et qu'il a suivi depuis toujours le Hirak, et ben c'est ce qui était véritablement lui était véritablement reproché. Bien sûr, après c'est un dossier totalement vide. Cela a été prouvé par ses avocats à maintes reprises. La première instance quand il a été emprisonné, condamné à 3 ans, la deuxième en appel où il a malheureusement été condamné à 2 ans. Donc les avocats ont démontré que le vide de ce dossier. Voilà. Les chefs d'inculpation sont pour lui les mêmes que ce que nous avons, beaucoup d'entre nous en tout cas, avions reçu lors de nos arrestations, et ceux qui sont encore aujourd'hui détenus à presque 90. C'est incitation à attroupement et appel à manifestation, ce qui n'était absolument pas le cas en ce qui concerne Khaled ou d'autres d'ailleurs, et atteinte à l'intégrité et à l'unité de la nation. Voilà. Ceci pendant qu'il couvrait une manifestation et après qu'il ait été maintes fois interpellé, emmené dans les commissariats pour interrogatoire.
On l'a même accusé d'être un agent de l'étranger.
Voilà, oui, ça c'est une manière pas du tout élégante et très populiste de la part de Monsieur Tebboune, qui lors d'une interview avec des journalistes algériens, voilà, bien évidemment trié sur le volet, la question lui avait été posée et lui, avant même, au lieu de dire que ça ne dépendait pas de lui, qu'il laisse la justice s'exprimer, qu'il ne veut pas faire de pression sur la justice, Il a fait exactement le contraire, effectivement, en traitant Khaled Darani de Khbarji. Khbarji qui veut dire un peu une sorte de balance, un peu une de mouchard de l'étranger. Voilà, donc il a dit ça avant même son procès, et donc on suppose bien que cette expression de Monsieur Tebboune a beaucoup pesé sur les 3 ans qui ont été ensuite réduits à 2 ans de condamnation de Khaled Doué. Bien évidemment, ça c'est l'avis de Monsieur Tebboune et de certains qui pourraient être autour de Monsieur Tebboune, y compris le ministre de la communication, soi-disant anciennement journaliste, Monsieur Belhemer, mais c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, croyez-moi, l'avis des Algériennes et des Algériens qui suivaient, qui apprécient Khaled Darani dans son professionnalisme et tout le temps avec son sourire légendaire.
C'est sûr que dans un système où l'omerta et l'opacité fait office de loi, le fait simplement de prendre une photo ou de tendre un micro à quelqu'un, ça peut paraître comme transgressif et digne de l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc c'est comique. Voilà.
Juste pour préciser une chose, en fait, il y a d'autres journalistes, et particulièrement de la génération de Khaled, qui 30 à 40 ans, qui sont sur le terrain principalement pour animent sur les réseaux sociaux ou des journaux électroniques. Mais en fait, la particularité de Khaled, au-delà du fait qu'il suivait toutes les marches chaque mardi et chaque vendredi, c'est que lui, il tweetait énormément. Voilà, contrairement à beaucoup d'entre nous Algériens qui sont plus sur Facebook, sur les tweets, mais ils tweetaient énormément, et les tweets, bien évidemment, sont lus à travers le monde, sont suivis à travers le monde, en Europe, en France, aux Amériques, et en fait, c'est ça qui a posé problème aux autorités algériennes et qui ont décidé de le faire taire. C'est parce que sa voix, ses tweets et ses couvertures, non pas seulement des reportages ou ce qu'il pouvait faire avec TV Segmonde et tout, mais les tweets qu'il faisait très très réguliers, donnaient des informations au quotidien à tous ceux qui voulaient savoir ce qui pouvait se passer en Algérie pendant ce temps-là.
Alors, Pierre Audin, vous êtes membre du comité international de soutien à Khaled Rarini, et il se trouve que vous êtes même engagé pour la libération des détenus du Hirak bien avant la détention de Khaled. Vous avez d'ailleurs participé en novembre 2019 à un meeting à la Bourse du Travail. Khaled était déjà en prison, et en fait, vous êtes...
Non. Khaled n'était pas en prison, par contre Hakim était en prison.
Oui, c'est ça, Hakim était en prison. Vous êtes comme votre père, vous êtes un Algérien, et vous êtes engagé pour l'Algérie indépendante. Le Hirak, c'était une grosse manifestation de dire « Nous voulons enfin être indépendants, nous voulons être souverains, nous voulons être maîtres de notre destin. » Et cette façon de vous engager dans cette nouvelle révolution, pour vous, ça allait de soi, c'est dans la lignée de votre père.
La lignée de mon père, je ne peux pas vraiment complètement le dire parce que je ne l'ai pas connu, puisque j'avais un mois quand ils l'ont arrêté.
De façon idéologique.
Mais disons que, par contre, j'ai été élevé par ma mère qui s'est battue pendant plus de 60 ans pour faire savoir la vérité à propos de mon père. Et qui suivait ce qui se passait en Algérie et qui était désespéré de voir ce qu'était devenu l'Algérie par rapport à ce que eux voulaient quand ils se battaient contre le colonialisme, l'indépendance qu'ils souhaitaient, c'était pour faire une Algérie libre, mais une Algérie solidaire, une Algérie multiculturelle, une Algérie dans laquelle chacun pourrait s'exprimer, aurait le droit de s'exprimer. Et c'est effectivement pas ce qui se passe. On est presque à 60 ans après l'indépendance, et c'est effectivement toujours pas ça qui est arrivé. Ma mère est décédée le 2 février 2019. Lors du meeting dont vous parlez, j'ai même dit aux Algériens que je les engueulais parce que elle est morte sans savoir que le 22 février, ils allaient reprendre la lutte et qu'ils allaient marcher et qu'ils allaient faire la révolution du sourire, etc. quoi. Et je dois reconnaître que c'est la première fois que je rencontre effectivement Hakim. Je suis très 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 fier de le rencontrer parce que je trouve tout à fait anormal qu'il ait été en prison sur des chefs d'inculpation comme ceux de Khaled Rarni. Khaled Rarni, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Je connais son travail, mais je ne le connais pas.
Nous, on le connaît très bien à la radio.
Voilà.
Moi, personnellement, je le connais très bien.
Moi, je suivais effectivement.
Travaillé avec lui dans différents pays, notamment en Arménie. Mmh. Et il a été correspondant pour nous à Beur FM. Et vraiment, c'est quelqu'un, c'est un vrai professionnel. D'ailleurs, toute la presse professionnelle algérienne dans laquelle il est passé, parce qu'il est passé à Zahir TV, il est passé sur des chaînes de télé, il a la Casbah Tribune à Alger, tout le monde reconnaît son professionnalisme.
Casbah Tribune, qui est son média qu'il a créé lui-même.
C'est lui-même qui l'a créé. Il est tout à fait clair que, par contre, si je ne le connais pas, parce que je ne l'ai jamais, je ne l'ai pas rencontré, si je ne le connais pas, je connais par contre très bien ce qu'il faisait. Je suivais ce qui se passait en Algérie grâce à ses tweets, tout à fait. Et heureusement, parce que, par exemple, ici en France, si on essayait de savoir ce qui se passait en Algérie à ce moment-là, ben c'est pas avec les médias français qu'on réussissait à le savoir. Quoi.
Alors, il y avait un article tous les 36 du mois. Quelle est la situation de Khaled aujourd'hui? Au niveau du comité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Et quelle est la situation d'aujourd'hui? Je crois qu'il y a un nouveau procès bientôt.
Voilà, Khaled a été condamné en première instance, a été condamné en appel, et maintenant il a fait un pourvoi en cassation. Et donc la Cour suprême de l'Algérie va examiner son pourvoi en cassation le 25 février. Donc le temps est compté d'ici le 25 février pour essayer de faire pression autant que possible sur les autorités, puisque en fait la justice algérienne n'est pas indépendante. La justice algérienne écoute ce que dit le président de la République, qui le traite d'espion.
Téléphone.
Oui. Ça se dit à propos de la justice algérienne, mais pas seulement en Algérie. On le sait ici aussi que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est le pouvoir qui doit comprendre que non, en 2021, au troisième millénaire, en tout cas au 21e siècle, quelqu'un qui fait son métier de façon parfaitement indépendante et parfaitement consciencieuse et parfaitement professionnelle, c'est pas quelqu'un qu'on met en prison sous prétexte de ça. Mais au contraire, c'est quelqu'un qu'on devrait montrer en exemple et dont on devrait dire aux autres suivez son exemple pour faire le travail aussi bien que lui, et pas seulement dans son métier, mais dans tous les métiers. Et l'Algérie à l'heure actuelle, elle a une richesse qui est phénoménale. C'est pas du tout le pétrole, c'est la jeunesse. Et la jeunesse algérienne, elle est prête à construire le pays. Moi, je trouve tout à fait scandaleux que, à presque 60 ans après l'indépendance, on soit toujours en train de se poser la question de construire le pays. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les jeunes, actuellement, ils veulent construire le pays. Ils veulent construire le pays et ils veulent profiter de leur participation pour que le pays leur serve à eux aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument que le pouvoir actuel comprenne.
Sur la base des compétences.
Il n'y a que des vieux. Il n'y a que des vieux qui ont essayé, qui ont fait des choses, qui n'ont pas réussi. Tout ce qu'ils ont réussi, c'est à une espèce de clan, de lutte de clan.
De dilapidation des
laissons,
de familles.
Laissons tomber. Ils ont eu 60 ans pour faire ça. Ils l'ont fait pendant 60 ans. Maintenant, c'est autour des autres, c'est en particulier autour de la jeunesse. Et je pense que Khaled Arni, c'est quelqu'un qui est justement... il a 40 ans, c'est pas un tout jeune. Mais disons quand même, c'est quand même quelqu'un qui fait partie de cette jeunesse de l'Algérie qui veut construire un pays qui participe au concert des nations actuelles.
Il a 40 ans, donc c'est cette génération qui a été lourdement meurtrie par les événements d'octobre 88 et qui a été lourdement meurtrie par la décennie sanglante.
Tout à fait.
C'est une génération à qui on a volé la jeunesse.
Tout à fait.
Il y a une quinzaine d'années à qui on a volé, et cette génération s'est reconstruite autour de Hakim, autour de Khaled, et cette génération elle a envie d'avoir son Algérie à elle, vraiment l'Algérie des aïeux. Et c'est ça qui est un peu rageant, c'est ça qui vous fait sortir de vos gongs et qui vous fait adhérer à ce comité et appeler à sa libération.
Tout à fait. Et donc on fait le maximum d'ici le 25 février.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Avec Pierre Audin et Hakim Haddad. Alors, Khaled Rahani, donc, il est à la prison de Coléa, il est dans une chambre seule, il a beaucoup de difficultés on dit qu'il est aussi un peu malade, enfin, c'est très compliqué. Il n'est pas le seul détenu, politique. Hakim, la dernière fois, vous me disiez qu'il en a près 95. Aujourd'hui, il y a eu des grands panneaux sur le périphérique, il y a eu Reporters sans frontières, Human Rights qui s'est manifesté. Qu'est-ce qu'on
Amnesty.
Peut faire de plus pour appeler à la mobilisation, d'une part à la libération de Khaled, mais aussi des autres détenus?
Bon, la première chose déjà, c'est de faire une information donc, sur ce qu'est Khaled Rahni et ce que sont les détenus d'opinion, disons. En particulier, il y a un excellent reportage de TV5 Monde sur un documentaire d'une demi-heure sur TV5 Monde, là, qui sort en ce moment un petit peu sur toutes les zones du monde.
Khaled était correspondant pour TV5 Monde.
Tout à fait. Et donc, ils savent bien qui il est et ils ont fait un magnifique documentaire sur lui. Il faut absolument le diffuser, il faut absolument le voir et le diffuser pour savoir ce dont il s'agit. Il faut aussi informer sur les autres détenus. Par exemple, Walid Nekish, qui a passé 14 mois en prison en détention préventive, qui a été condamné finalement à 6 mois après que le procureur ait demandé la perpétuité, sur un dossier vide, et qui, devant le juge au tribunal, a expliqué qu'il avait été torturé. Le tribunal ne s'est pas auto-saisi. La justice algérienne ne s'est pas auto-saisie quand on lui dit qu'un détenu a été torturé. Il y a deux solutions, en fait. Soit l'État poursuit les tortionnaires, en tout cas ceux qui sont présumés tortionnaires, pour faire la vérité, soit il ne le fait pas. Là, en l'occurrence, il ne le fait pas. Ça veut dire qu'il les soutient, ou ça veut dire qu'il les incite à recommencer et à faire la même chose avec d'autres prisonniers. Il y en a quand même 90, quelque chose comme ça, qui sont à l'heure actuelle détenus juste pour un délit d'opinion, avec des dossiers qui sont vides. Quand c'est Saïd Bouteflika qui a un dossier vide, on la quitte. Quand c'est Khaled Narani ou Walid Nekish ou qui que ce soit, ils sont condamnés, ils restent en prison sur un dossier vide aussi. Donc il y a un moment où il faut quand même que la vérité se sache et que les soutiens s'affichent de façon à ce que on réussisse à faire un peu pression sur cette Cour suprême qui doit décider le 25 février lors du jugement de cassation si Khaled reste en prison ou pas et si les autres détenus peuvent espérer sortir de prison, être graciés, être réhabilités. Parce que quand on est allé en prison pour rien, ça nécessite aussi une réhabilitation. Tout ça, c'est quelque chose qui est important, qui se décide dans les 3 semaines qui viennent, là. Et donc, au niveau du comité international, on a lancé en particulier un certain nombre de petites vidéos qui font le buzz sur les réseaux sociaux, de façon à ce que les gens soient au courant, sachent qu'il y a des soutiens et que non, on laisse pas les choses faire et qu'il faut faire pression sur le gouvernement algérien, puis sans doute aussi le gouvernement français et les gouvernements un petit peu partout, puisque l'Algérie a signé un certain nombre de conventions internationales. Il faut lui rappeler aussi qu'elle a signé un certain nombre de conventions internationales. Elle doit les respecter et on doit lui rappeler qu'elle doit les respecter, et y compris le gouvernement français, y compris les gouvernements de tous les pays du monde. Il y a une résolution du Parlement européen, il y a des émissaires des Nations Unies qui ont dit à quel point ils n'étaient pas d'accord dans le cas de Khaled Rahni. Il faut quand même les écouter, il faut quand même faire pression sur le gouvernement algérien pour rappeler au gouvernement algérien qu'il doit respecter sa propre loi, sa propre constitution, mais aussi toutes les conventions, tous les traités qu'il a signés au niveau international.
Hakim Haddad, comment vous expliquez cette distorsion, ce phénomène de porte-à-faux entre la magistrature, entre la justice algérienne, une constitution, on a le sentiment que c'est une des plus belles constitutions de la Terre, où normalement tout est ordonné, respecté, on obéit à toutes ces choses-là, et dans les faits, on a l'opposé, c'est à 180 degrés à l'opposé de tout ça. Comment expliquez-vous que 60 ans après, l'état de droit en Algérie ne soit pas respecté? Comment on explique cette distorsion entre les écrits et en fait ce qui se passe au quotidien?
Je reviendrai après sur la question de la solidarité sur Khaled Rahni et les autres détenus, mais pour répondre à votre question, en fait, il y a un monde, il y a deux mondes, il y a trois mondes entre les textes, que ce soit la constitution ou les textes qui régissent les lois en Algérie, et la pratique, que ce soit la pratique par le pouvoir, par les autorités, ou la pratique par la dite justice, j'y mettrai des guillemets. Voilà, donc le plus souvent, c'est pas les textes, même s'il y en a qui posent bien évidemment problème, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, le plus souvent, donc c'est pas les textes qui posent de problème, c'est la mise en pratique ou la non mise en pratique plus exactement de ces textes. Il y a aucun de ces détenus, comme vient de le dire Pierre Audin, qui et puis des centaines qui sont passés avant Khaled Rani, qui auraient dû se retrouver là où ils sont aujourd'hui. Malheureusement, en Algérie, la justice, en tout cas concernant les questions d'opinion, d'avis politique, etc., n'existe pas, puisqu'elle a montré, elle a démontré qu'elle était absente. Et vous l'avez dit vous-même, c'est appeler la justice du téléphone par les Algériennes et les Algériens. Donc c'est sur ordre, c'est sur instruction que les gens sont condamnés ou pas, et en fonction de ce qui s'ils sont plutôt proches ou pas proches ou opposants aux autorités. Donc en fait, ça pose la question de la nature du régime algérien. C'est pas un régime démocratique, je veux pas aller dans les gros mots et dire que c'est une dictature, etc., même si il s'avère, et en particulier depuis quelques mois, que c'est exactement comme ça, puisqu'aucun Algérien n'a le droit de parler, aucune presse n'a le droit de parler réellement, etc. Donc c'est la nature du régime algérien, et de cette nature, elle existe depuis l'indépendance, voilà, malheureusement, et on n'en a pas changé depuis. Et c'est pour ça que le peuple algérien, plusieurs fois auparavant, mais en particulier à février 2019, et nous sommes en train de nous préparer à commémorer les 2 ans de ce début de révolution, parce qu'elle n'est pas finie, c'est pour ça que le peuple algérien est sorti en disant « Daoula Madania, état civil et démocratique, avec tout ce pourquoi les Algériens et les Algériennes et ceux qui ont aidé l'Algérie à être indépendante se sont battus et pour beaucoup ont donné de leur vie. » Donc c'est la nature du régime qui veut ça. Il ne permet pas la liberté, il ne permet pas les libertés, et bien évidemment le non-respect, comme la question de la torture entre autres, le non-respect des questions de droits humains. Voilà. Sur la question de Khaled et des autres détenus, vous aviez posé qu'est-ce qui est fait, etc. Pierre a répondu. Je voudrais juste dire qu'en fait, il a dit une chose très importante. Il faut que les gens sachent. Et les gens en Algérie, mais surtout, je dirais, d'ici le 25, à l'étranger. Voilà, moi j'ai pas honte d'être étiqueté, je sais qu'on peut être étiqueté, agent de l'étranger, main de l'étranger, bras de l'étranger, etc. Mais nécessité fait loi, et il y a nécessité à faire sortir ces gens-là de prison, et on ne les fera pas sortir juste ou que avec les mobilisations qui se font bon an mal an en Algérie avec le comité algérien. C'est aussi à l'étranger que ces mobilisations doivent se faire, et je salue votre radio de nous ouvrir ces ondes pour parler de Khaled Rani et du reste des détenus. Donc un, c'est que l'information passe, et je rappelle encore une fois cet excellent reportage fait par TV5 Monde qui doit passer en France, je crois, le 6 de ce mois de février, mais également la mobilisation. Voilà. Et tout le monde, je reprends le terme de Monsieur Pierre Audin, doit s'afficher. Voilà. Je pense que aujourd'hui, les journalistes, les intellectuels, les artistes qui s'élèvent quand il y a atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de parole ici en France, par exemple avec ce qui s'est passé avec Charlie, etc. Eh ben, se lèvent et disent la même chose et avec le même entrain concernant Khaled Rani et concernant les autres prisonniers politiques, mais au moins un confrère à eux, journaliste. Qui croupit en prison, parce que nous avons bon espoir que d'ici le 25, si les choses sont sues, s'il y a un tapage, s'il y a une mobilisation, que la Cour suprême prenne la seule décision qui aurait dû être prise depuis longtemps, relâcher et acquitter avant effectivement de réhabiliter Khaled Rani et également les autres après. Les autres détenus.
Pierre Audin, pour terminer, dans la suite de ce que dit Hakim Haddad, il faut une mobilisation et le comité, le rôle du comité, c'est aussi de demander à toutes les chancelleries internationales, à tous les États, et la France en particulier, de condamner, de se mobiliser, et parce qu'on a cette frilosité, hein, que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir en France, on a peur de toucher au dossier algérien, puis de l'autre côté, ils ne se privent pas de brandir à chaque fois l'argument de l'ingérence. Oui, mais il faut pas hésiter à se mobiliser.
Je ne vois aucun État, à aucun moment dans l'histoire, qui ait dit oui, nous avons des détenus d'opinion. Nous nous comportons mal avec nos détenus d'opinion. Donc il faut quand même que ça vienne du peuple, ok. Mais il faut aussi que ça vienne de l'extérieur, de leur rappeler les règles. Quelles sont les règles? Le pouvoir français, le pouvoir français, il a de bonnes relations économiques, de bonnes relations avec le pouvoir algérien. Il est capable de livrer des matériels anti-manifestation à la Tunisie. Il est capable de faire tout un tas de choses comme ça, d'avoir plein de bonnes relations avec les autres États. Donc en particulier avec l'Algérie, il doit être capable de rappeler un certain nombre de règles. Et en ce qui concerne Khaled Rahni, mais pas seulement lui, tous les autres détenus d'opinion, c'est pas quelques mois de prison de trop. C'est chaque instant passé en prison est une injustice. Chaque moment passé en prison pour un innocent, ce qui est le cas d'environ 90 personnes à l'heure actuelle, mais avec tous les précédents, par exemple Hakim, mais avec tous ceux qui risquent de venir, chaque instant passé en prison est une injustice.
Merci Pierre Audin, merci Hakim Haddad d'être venu aujourd'hui.
Rendez-vous.
Nous sommes tous Khaled Rahni, je suis Khaled Rahni. Merci d'être venu dans cette émission et on continue, donc on souhaite à Khaled une libération la plus rapide possible. À très bientôt, merci d'être venu.
Merci.
Merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.